Bonjour Marc, bonjour à tous. Il faut siffler la fin de la récré. L'appel de médecins à limiter les rassemblements privés alors qu'hier, plus de 10 500 nouveaux cas de Covid-19 ont été diagnostiqués. Pendant ce temps, la rave party illégale au sud de Nantes se poursuit avec plus d'un millier de participants. 68 élus réclament un moratoire sur la 5G, technique dommageable pour l'environnement et qui pose encore question sur le plan sanitaire, expliquent les signataires. Position sectaire, rétorque le ministre délégué au commerce extérieur. L'OTAN impuissant pour freiner la montée des tensions en Méditerranée orientale entre Athènes et Ankara. Tous les deux sont membres de l'Alliance Atlantique pourtant. Hier, la Grèce a annoncé le renforcement de son armée. Bien plus qu'à l'autodiscipline sur le port du masque et le lavage des mains, c'est à une réduction drastique de contacts journaliers qu'appellent des médecins dans le journal du dimanche. Énième tribune, énième mise en garde. Sauf que cet appel, ou plutôt ce signal d'alarme, paraît alors que plus de 10 500 nouveaux cas de coronavirus ont été diagnostiqués pour la seule journée d'hier. Un chiffre jamais atteint depuis le début de l'épidémie. Infectiologues, professeurs de santé publique ou néphrologues se défendent d'être dans l'injonction, mais Adrien Palluet, ses médecins, demandent l'application de règles beaucoup plus strictes que celles que nous suivons aujourd'hui.
Oui, il faut siffler la fin de la récréation, écrivent les signataires. Évitez donc les rassemblements privés et reportez autant que possible les réunions en famille ou entre amis. Car le virus se transmet beaucoup plus rapidement dans les espaces clos, comme l'expliquait ce matin sur France Inter l'épidémiologiste Didier Pittet.
Il faut bien comprendre que ce virus est véritablement capable de faire ce qu'on peut appeler des noyaux familiaux. Alors la famille, c'est-à-dire ça peut être la famille du travail, ça peut être la famille évidemment à la maison, ça peut être la famille à l'école. Donc ce n'est pas le virus qui circule, ce sont les gens qui circulent. Ce sont les densités de population et puis les densités d'activité qui expliquent la propagation de ce virus. Il vaut mieux avoir des mesures restreintes ou des mesures localisées. Imaginons par exemple, et on l'a vécu à Genève, on a réouvert les discothèques et puis 3 ou 4 semaines plus tard, eh bien tous nos noyaux épidémiologiques étaient liés aux activités festives et aux discothèques, donc on a dû les refermer. Plus vous serez capable d'être des fins limiers en matière d'épidémiologie, plus vous pourrez faire prendre des décisions de ce type-là.
Limiter les rassemblements privés, c'est d'ailleurs une idée qui est sur la table, estimait cette semaine le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy, ce qui ne semble pas inquiéter les milliers de fêtards rassemblés tout le week-end pour une rave party près de Nantes, alors qu'un arrêté préfectoral l'interdit et que les autorités y voient la possible création d'un foyer de contamination. En Angleterre, dès demain, les rassemblements de plus de 6 personnes seront interdits, même en privé.
Merci Adrien. 68 élus locaux, nationaux et européens réclament un moratoire sur la 5G. Parmi eux, la maire écologiste de Marseille, Michel Rubirola, Éric Piolle, le maire de Grenoble, également d'Europe Écologie Les Verts, ou encore Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Ils font valoir que le déploiement de cette technologie va faire bondir la consommation d'énergie. Ils s'appuient aussi sur un rapport de l'ANSES de 2019. L'agence de sécurité sanitaire avait alors mis en évidence un manque important, voire une absence de données sur les effets biologiques de la 5G. Pour Emmanuel Denis, le maire Europe Écologie Les Verts de Tours, il faut donc d'urgence mettre en place un débat démocratique décentralisé.
Il est important quand on fait de la politique de dire la vérité. La vérité aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas continuer à développer ce type de technologie qui finalement sera néfaste. Et en tous les cas, il faut avoir le débat public. On n'est pas sûr d'avoir la vérité sur ce sujet, mais dans ce cas-là, il faut qu'on nous démontre l'inverse. Et donc, si on n'a pas ce débat, un vrai débat public qui doit être organisé sur l'ensemble du territoire, et c'est à l'issue de ce débat et de cette discussion qu'on pourra répondre ou pas à cette question-là. En tous les cas, j'ai l'impression qu'on est dans notre rôle d'élu d'alerter et d'essayer d'organiser ce débat. Et vous voyez, quand il y a des personnes qui sont tirées au sort, hein, comme sur la Convention citoyenne, qui ne sont pas des écolos a priori, hein, puisqu'elles sont tirées au sort, les conclusions, c'est quand même de dire il y a une question, il y a une vraie question à débattre sur la 5G. Donc ça prouve que les choses ne sont pas aussi simples qu'on veut nous faire croire.
Et la réaction à cet appel ce matin de Franck Riester, le ministre délégué au commerce extérieur, estime que cette position est sectaire. Coup d'envoi à la Maison de la Chimie à Paris du congrès du PS. Les discussions internes doivent durer 3 mois. Olivier Faure, le premier secrétaire du parti, a annoncé qu'il sera candidat à sa propre succession. Le député de Seine-et-Marne prône une stratégie d'alliance avec les écologistes pour la présidentielle, ligne qui pourrait être mise en œuvre dès les élections régionales de mars. C'est ce qui s'appelle appelle venir en terrain hostile. Pour la première fois dans l'histoire du MEDEF, son patron va participer à la fête de l'UMA. La grand-messe du journal communiste se déroule sur plusieurs sites franciliens et c'est dans un théâtre de la place de la République à Paris que Geoffroy Route-Bézieux doit débattre cet après-midi avec Philippe Martinez de la CGT. Athènes accroît la puissance de son armée en pleine crise sur la souveraineté des eaux en Méditerranée orientale. Hier, le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a annoncé l'achat de 18 avions de combat français, un renforcement de la flotte de guerre et une hausse des effectifs de la marine. Pour Athènes, il s'agit de former un bouclier national, décision qui ne fait bien sûr qu'envenimer la situation entre la Grèce et la Turquie. Tous les deux sont membres depuis 1952 de l'OTAN, mais dans ce dossier, l'Alliance Atlantique peine à montrer son efficacité. La correspondance à Bruxelles de Pierre Benazet.
Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, a poussé Athènes et Ankara à ouvrir un dialogue militaire depuis le 3 septembre. La résolution de leurs tensions était après tout un des motifs qui a conduit à l'entrée simultanée des deux pays dans l'OTAN. Et l'Alliance Atlantique a maintes fois servi d'intermédiaire. Mais cette fois-ci, les instruments classiques que l'OTAN nomme désescalade et déconfliction ont du mal à fonctionner puisque depuis 10 jours, la Turquie accuse la Grèce de fuir le dialogue. Le secrétaire général de l'Alliance affirme que les discussions se poursuivent, mais pressé dans ses retranchements, Jens Stoltenberg est bien obligé de revenir à son leitmotiv, qui est de dire que la Turquie est un membre important de l'Alliance. C'est le même discours qu'il avait utilisé après les tensions entre la frégate française Courbet et des navires turcs. Le problème principal de ce dialogue qui patine est qu'en fait l'OTAN ne peut pas jouer son rôle car les États-Unis se sont désintéressés de ce dossier. Le choix grec d'acheter des rafales français est un des signes de ce que désormais la Grèce se replie vers ses alliés européens et que l'OTAN pâtit du désengagement américain.
La correspondance à Bruxelles de Pierre Benazet. Les électeurs russes appelés aux urnes pour désigner les gouverneurs, les assemblées régionales et 4 députés. Le scrutin va durer 3 jours. Les opposants au régime et soutien d'Alexei Navalny appellent à un vote intelligent. Cette tactique vise à voter pour celle ou celui qui sera le mieux placé pour faire perdre le PC. En Sibérie, une 30aine de candidats indépendants se sont alliés et c'est une première pour défier le parti du Kremlin. À Hong Kong, les familles de 12 jeunes interceptés par des garde-côtes chinois ont tenu hier une conférence de presse pour supplier les autorités de l'ancienne colonie d'intervenir auprès de Pékin. Elles sont plongées dans l'angoisse depuis 3 semaines. C'est en effet fin août que ces jeunes, dont un mineur, avaient tenté de rejoindre Taïwan par la mer avant d'être arrêtés. En 2019, ils avaient également participé à des manifestations contre Pékin. La correspondance à Hong Kong de Florence de Chandy.
En cagoulé, masqué, caché derrière des lunettes noires, les parents de 6 des 12 jeunes détenus en Chine ont exprimé leur angoisse d'être sans nouvelles. James To, avocat et député du camp pro-démocratie, est l'un des organisateurs de la conférence de presse.
Nous sommes très inquiets de la situation, de leurs droits, de leur santé, de leur statut. Et est-ce que leurs droits, même sous la loi chinoise, vont être protégés?
D'autant que les avocats chinois, que les familles avaient réussi à mobiliser, ont annoncé qu'ils avaient été dissuadés de défendre les jeunes hongkongais, comme l'explique le député Chuo Yik.
Je pense que le plus gros problème pour le moment pour les familles, c'est que le gouvernement chinois essaye de leur imposer des avocats commis d'office et non les avocats choisis par les familles. Il y a donc un gros risque que les familles perdent tout contact avec les détenus et que ce cas tombe dans un trou noir et que l'on n'ait plus de nouvelles pendant des mois, voire des années, comme tellement d'autres cas de droits de l'homme en Chine.
Peu après cette conférence, le service de l'immigration de Hong Kong a fait savoir que les jeunes étaient en bonne santé.
Les explications de Florence de Changi. En République démocratique du Congo, à Kamituga, le deuil décrété hier se poursuit. Pour l'instant, aucun corps n'a été remonté de la mine d'or artisanale qui s'est effondrée vendredi. Une 50aine de personnes sont portées disparues. Les recherches à coups de pioche et de houx se poursuivent. Vous écoutez France Culture, il est 12h39, l'heure de retrouver Nabila Hamel pour la France cachée du globe. Et vous vous intéressez cette semaine, Nabila, aux tensions entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte au sujet du barrage Renaissance, un barrage colossal construit par Addis Abeba. Bonjour Nabila.
Bonjour Claire. Demain, lundi, sera la nouvelle date butoir fixée à l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan pour faire leurs propositions sur le grand barrage hydroélectrique de la Renaissance construit sur le Nil bleu. L'ouvrage est colossal, 145 mètres de haut et une capacité de 74 milliards de mètres cubes d'eau. Il devrait entrer en service l'an prochain. L'Éthiopie, qui a connu des périodes de sécheresse catastrophiques dans les années 80, en fait son principal atout pour son développement économique et agricole. Mais Khartoum et le Caire en aval affichent leur désaccord et déclarent craindre qu'ils ne restreignent leur accès à l'eau. Où en sont les négociations entre les trois pays? David Blanchon est professeur de géographie à l'Université de Nanterre, actuellement en délégation CNRS auprès de l'Université de l'Arizona.
Il y a en fait deux questions, à mon avis. C'est qu'il y a une question technique, hein, c'est-à-dire à quel rythme il faut remplir ce barrage. Les Égyptiens veulent un rythme lent, 21 ans. Les Éthiopiens veulent un rythme plus rapide, en 7 ans. Là, les Éthiopiens agissent de façon un peu unilatérale, en commençant le remplissage sans avoir d'accord, ce qui crée évidemment des problèmes. Mais derrière cette question technique, je pense qu'il y a vraiment une opposition de fond dans le bassin entre l'Égypte en aval, hein, qui dépend du Nil à 98%, et l'Éthiopie en amont qui s'affirme comme une puissance émergente continentale. Donc il y a vraiment deux niveaux de discorde, un technique et puis un qui est plus géopolitique.
Si l'on prend d'abord l'aspect technique, dans quelle mesure le barrage éthiopien de la Renaissance pourra-t-il modifier, comme semble le craindre Khartoum et le Caire, le débit du fleuve sur leur territoire?
Le but du barrage hydroélectrique, c'est de produire de l'électricité, donc de laisser passer l'eau, hein, à terme, lorsqu'il sera rempli, a priori, ça modification sur le débit des eaux en Égypte sera relativement faible, hein, surtout qu'il existe un barrage déjà au Soudan et qu'il existe en fait le barrage d'Assouan depuis 1970 qui régule largement le fleuve. Le problème, c'est vraiment un problème de rythme de remplissage, mais là encore, hein, je pense que c'est vraiment plus un prétexte d'un renversement de l'hégémonie dans le bassin du Nil. L'Égypte était une puissance qu'on appelait une puissance hydro-hégémonique qui affirmait, en faisant référence à des traités de 1929 et de 1959, qu'elle avait des droits sur le Nil, alors que l'Éthiopie mène une politique de contre-hégémonie qui dit que en fait tous les États du bassin sont égaux et qu'elle a le droit également de maîtriser les eaux dans son territoire et avec ce grand barrage qui est, en fin de compte, hein, également pour l'Éthiopie de s'affirmer comme la grande puissance hydroélectrique énergétique de cette partie du continent, pour le Soudan, pour le Kenya, pour l'Ouganda. Et avec cette production hydroélectrique, s'affirmer également comme puissance industrielle émergente avec l'appui de la Chine. Donc il y a vraiment un contexte géopolitique qui va bien au-delà des questions techniques de remplissage du barrage.
Est-ce que la question du Nil, telle qu'elle se pose aujourd'hui, peut aboutir à un conflit direct ou indirect?
C'est très improbable. L'Égypte n'aurait absolument aucun soutien si elle se lançait dans un conflit armé avec l'Éthiopie. L'Éthiopie a fait un réseau d'alliances suffisant pour éviter tout conflit. Maintenant, l'Égypte a un problème assez grave lié aux questions agricoles et foncières. Et là, on pourrait presque dire que cet affrontement verbal avec l'Éthiopie est là pour masquer les problèmes hydrauliques extrêmement importants et fonciers extrêmement importants qui sont à l'intérieur de l'Égypte cette fois-ci.
David Blanchon est l'auteur de Géopolitique de l'eau entre conflit et coopération, publié aux éditions Le Cavalier Bleu. C'est une victoire qu'ont obtenue les défenseurs de l'environnement au Zimbabwe. Harare a pris cette semaine la décision d'interdire l'exploitation minière dans les parcs naturels du pays. La promesse de concession faite à deux entreprises chinoises dans le parc de Wangé avait, il est vrai, suscité un tollé depuis le début du mois. Désormais, Claire Bargelès, le gouvernement veut donner la priorité à la biodiversité et au tourisme.
La décision du gouvernement est claire. L'exploitation minière dans les zones détenues par les parcs nationaux est interdite avec effet immédiat, a annoncé la ministre de l'Information, et des mesures seront prises pour annuler ces titres miniers. Le parc de Wangé, c'est une réserve d'une superficie équivalente à la moitié de la Belgique et qui abrite près de 10% du nombre total d'éléphants sauvages en Afrique, avec plus de 45 000 pachydermes. Il s'agit aussi d'un habitat pour les rhinocéros noirs, une espèce en danger. Alors quand des travaux préparatoires en vue d'une extraction de charbon ont discrètement débuté, cela a fait bondir une association d'avocats environnementaux zimbabwéens. Ils ont lancé une bataille devant les tribunaux pour empêcher l'ouverture de nouvelles mines. Même si le président Emmerson Mnangagwa est un fervent partisan de l'industrie du charbon. Le gouvernement s'est donc finalement prononcé en faveur des défenseurs de l'environnement et a même étendu la mesure à tout le pays. C'est aussi une victoire pour le secteur du tourisme, alors que le parc Wange représente l'une des principales attractions du Zimbabwe. En revanche, les autorités vont désormais devoir adapter leurs plans en matière de production d'énergie, alors que le pays est en manque d'électricité et que ces mines devaient permettre d'alimenter de nouvelles centrales à charbon.
À dimanche prochain.
La face cachée du globe de Namila Hamel à retrouver sur franceculture.fr. La météo pour cet après-midi, chaleur et soleil au menu. Les nuages ne seront visibles qu'au-dessus des Alpes. Les températures dignes d'un mois d'août, 22 à Cherbourg, 27 à Brest, 29 à Paris et Strasbourg, 32 à Marseille et 35 même à Toulouse.